Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
18h, presque 3 sur les ondes de Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du pédalo. Au programme ce soir, on revient un peu en arrière dans l'année pour la troisième session de diffusion consécutive, puisqu'on a déjà diffusé une la semaine dernière et encore une la semaine d'avant. Mais voilà, c'est la troisième fois que Radio Campus Angers va vous diffuser une interview réalisée par nos partenaires des Trois Coups. Les Trois Coups, c'est l'association de théâtre de l'Université catholique de l'Ouest. Pendant plus d'une semaine, ces étudiantes et étudiants ont pu permettre à d'autres de produire, de mettre en scène et de jouer des pièces de théâtre diverses et variées. Elles étaient tellement motivées qu'elles ont même fait des interviews pour mettre en valeur leurs joyeux camarades. On écoutera la présentation d'une pièce présentée et organisée par les Trois Coups, le jeu ce soir. Vous entendrez aussi un reportage Pensée Locale en partenariat avec la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, et le billet d'humour d'Axel Desfolies-Angevines. Ajustez votre gilet de sauvetage, le pédalo met les voiles.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Avec nous donc dans les studios Axel. Salut Axel.
Salut, c'est toujours Alex pour le coup. Mais avec grand plaisir Hugo.
C'est au bout d'une saison, le mec a toujours pas capté.
Mais non, t'inquiète.
Tu vas bien, à part le fait que je me plante de ton prénom?
Ouais, mais en vrai, ça va.
Moi, ça va, t'es sûr? Est-ce que t'es sûr que ça va?
Pas tant que ça. En vrai, moi, je suis très content d'être là, parce qu'en vrai, là, ça fait une semaine, j'ai la flemme de sortir. Vraiment, l'été, ça m'énerve. Tout le monde est beau. Moi, je me sens comme un t-shirt tectonique. Je vais à une seule personne, et en vrai, elle n'existe pas.
Enfin, elle existait.
Ouais, à une époque. Là, c'est mort. Et aussi, en ce moment, je vois plus l'intérêt, en vrai, d'avoir des amis. Oui, en fait, j'ai l'impression d'avoir tout chez moi pour être heureux. En fait, quand je vais pas bien, je parle un peu à Google. Tu sais, il comprend une phrase sur deux, je suis content. Tu sais, ça me rappelle un peu ma grand-mère. Mais ça fait plaisir. Surtout aujourd'hui, je me dis, qu'est-ce que tu veux sortir? Tu sais, quand tu peux rester chez toi, regarder Netflix, te faire des amis avec les personnages de série. T'sais, en plus, eux, jamais ils déçoivent. Jamais ils sont trop bourrés, ils sortent de la télé. T'sais, tu dois aller les aider à aller vomir. Jamais. En plus, le gros problème d'avoir des amis, c'est que quand ils te parlent, bah, il faut leur répondre. Et moi, vraiment, je suis plus capable. Là, je pense que mes amis le ressentent. J'ai plus de discussion. Si tu me parles d'autre chose que Arte, je suis perdu.
En même temps, très bien Arte.
Ouais, ah ouais, le kiff. Oh là là, je passe mes journées dessus, j'adore. Et là vraiment, j'ai très peur de la suite de ma vie. Hein. Parce qu'en ce moment, je commence à parler à des plantes. Et elles n'ont aucune répartie. Hein. Bon, ok, c'est peut-être dû au fait qu'elles n'ont pas de bouche. Mais je sais pas, t'as des branches. Lâche un dab, fais-moi un signe, quelque chose. Bon, j'ai quand même tiré une leçon de cette semaine de solitude. Alors déjà, c'est que peu importe où ma grand-mère aille, je penserai à elle. Et que là, voir des gens, ça fait quand même du bien.
Eh bien écoute, merci. Même s'il se trompe de prénom?
Oui, bon.
T'es d'accord, peut-être qu'au moins les plantes, elles se trompent pas de prénom. Voilà. Je suis dévasté.
T'inquiète.
Bon, bah, écoute, j'espère que la semaine prochaine, tu seras peut-être réconcilié avec l'amitié, parce que c'est quand même plutôt...
Oui, t'inquiète pas.
Ah ouais, j'espère. Mm. Nous, on t'aime ici.
Oh, merci, ça fait du bien.
Ben, la semaine prochaine, pour de nouvelles chroniques, Anjou et Guirette, mon bon vieux Alex.
Avec grand plaisir. Salut.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Et tout de suite, on embarque avec les Trois Coups pour une immersion dans leur pièce de théâtre. Celle qui vous est présentée aujourd'hui s'appelle donc Le Jeu. Le Jeu.
Les Trois Coups. Décryptage de la 31e édition du Festival des Arts de la Scène à Angers. Sur les ondes du 103 FM.
Bonjour Quentin, tu es metteur en scène au Festival Les Trois Coups pour la pièce Le Jeu. Bonjour Elsa, bonjour Pauline, vous
bonjour.
Êtes comédienne dans cette même pièce. Donc Le Jeu, c'est une adaptation théâtrale du film de Fred Cavaillé, joué à Luco, en amphithéâtre Bazin. Donc c'est une histoire traitant d'amis qui se retrouvent pour un dîner et qui décident de briser leur intimité à travers d'un jeu, poser leur téléphone sur la table le temps d'un repas, lire et répondre à tous les messages et appels qu'ils recevront à voix haute. Donc à l'origine, le jeu c'est un film. Quentin, tu as choisi de l'adapter sous forme théâtrale. Qu'est-ce que tu trouvais intéressant dans cette démarche ?
C'est compliqué comme question. Il faut savoir que j'ai juste adoré le film quand je l'ai vu une première fois. J'ai revu une autre fois, je l'ai re-revu une autre fois, etc. etc. Et je me suis dit que c'était plutôt intéressant. Enfin, en fait, on connaît très souvent le prénom comme une pièce de théâtre qui a été adaptée au cinéma. Et je trouvais que le jeu était un meilleur prénom. Je suis déjà en train de tailler les autres, mais le jeu était un meilleur prénom que le prénom lui-même en tant que tel. Et donc, je trouvais ça super intéressant. Enfin, je trouve que ça se prêtait carrément à la scène. Et voilà. Il faut savoir quand même que c'est pas la première fois, enfin c'est pas le jeu, l'original, l'original de l'histoire, c'est une version italienne qui s'appelle, pourquoi je me suis lancé là-dedans, Perfettis Cognos, enfin de Parfaits Étrangers je crois.
Ok, donc ça a été adapté au français.
Ouais, c'est ça.
Okay. Pardon, aussi ce qui est intéressant c'est que ce film, surtout c'est un huis clos, donc adapté au théâtre je pense que c'était beaucoup plus facile, donc je pense que ça a joué grandement dans ta décision.
Comme je disais, du coup, les téléphones portables, ils sont vraiment au cœur de l'intrigue de la pièce. Aujourd'hui, on entend beaucoup dire qu'ils sont un frein pour les relations. On voit ça aussi donc dans le jeu, où les relations se dégradent à cause des téléphones. Qu'est-ce que vous pensez de ça ?
C'est la boîte noire du couple, hein. Non, en vrai, je pense qu'il ne faut pas avoir non plus tout mal dans le téléphone, parce que ça reste de la toute base un outil de communication essentiel, surtout dans notre développement aujourd'hui, enfin dans le développement de la société et de la technologie. Donc certes, ça peut, comme on le voit dans la pièce, ça peut apporter de nombreuses complications, que ce soit dans les relations amoureuses ou amicales, mais il faut aussi garder que ça reste un outil maintenant essentiel, surtout nous, notre génération qui avons grandi avec. Et donc, faut pas perdre de vue que c'est pour communiquer et que c'est hyper important.
De toute façon, c'est quelque chose qui est maintenant ancré dans nos quotidiens. En fait, la question, c'est pas tant la question du portable. Pour moi, c'est surtout dans cette pièce, la question, et dans ce film, la question du secret. C'est juste une évolution, une modernisation de ces secrets et de comment ils sont gardés. Mais au final, la question se pose plus de l'honnêteté que du téléphone en lui-même.
C'est le nouveau qui dit secret.
C'est clairement ça. C'est carrément une sorte de petit carnet secret, de journal intime 2.0. Ouais. Ça fait très vieux, mais vraiment ce truc d'avoir toujours dans la main sa vie privée, sa vie publique et sa vie secrète, qui est quand même le sous-titre du film. Et ouais, c'est carrément, c'est pas spécialement le portable en tant que tel qui a un problème, c'est ça peut être la manière dont on l'utilise.
Justement, du coup, les personnages dans le jeu, ils choisissent délibérément d'ouvrir un peu ce petit kid secret à tous leurs amis. Selon vous, est-ce qu'il y a des limites à l'exposition de son intimité, comme on peut le voir dans le jeu, ou même dans la vie de tous les jours sur les réseaux sociaux ou autres?
La vie des autres nous intéresse pas toujours énormément non plus. Enfin, je veux dire, j'ai pas forcément envie de fouiller genre, dans le portable de mes amis ou quoi que ce soit. Enfin, après, on a tous nos secrets. Et enfin, y a ce truc de, on a une image publique, mais on a aussi une image privée, et celle qu'on veut garder pour nous. Je sais pas, ça a vraiment de sens ce que je dis, mais je me dis aussi, peut-être que les autres, ils en ont rien à foutre de ce qu'il y a dans mon téléphone, littéralement. Donc, j'ai un peu ce truc-là aussi.
Bah, c'est ce qu'explorent les différents personnages en fait, parce que y a certains personnages qui vont être très très curieux, comme je pense notamment au personnage de Charles et au personnage de Marjo. Y a certains personnages qui en ont un peu rien à faire, et il y a certains personnages qui disent carrément qu'ils en ont rien à faire de ce qu'il y a dans le téléphone de l'autre, comme le personnage de Vincent, lui il s'en fiche complètement. Et je pense qu'on n'est pas, on n'a pas tous la même curiosité. Il y a aussi, enfin il y a ce truc là qui rentre en compte, c'est le fait que ce sont des couples. Et il y a cette histoire de jalousie qui rentre en compte, et forcément ça questionne aussi la place du téléphone, pas juste au cœur d'un groupe d'amis, mais aussi dans un couple. Et c'est aussi ça qui est questionné par le film et la pièce.
Et même le fait de savoir ou de pas savoir, tout ce qui va être secret entre amis et entre couples, tout le rapport avec la confiance que vont se donner les gens, enfin on le voit bien même dans la pièce, le fait d'avoir des non-dits, le fait d'avoir un pote qui sait quelque chose, un autre pote qui sait pas quelque chose, etc. On voit bien que ça crée des conflits, même si c'est pas sujet à conflit. Le fait de savoir ou ne pas savoir, ça aussi cet aspect est ultra important et très intéressant.
En voyant les addictions au téléphone portable aujourd'hui, quels sont selon vous du coup les avantages et les inconvénients des téléphones qui pourraient avoir dans les années à venir, en voyant l'évolution que ça a hyper rapide?
Franchement, ça fait peur. Hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais non, mais ça vous fait rire, mais c'est vrai. J'avais vu une étude comme ça où il y avait des enfants qui passaient plus ou moins de temps sur les écrans avant 3 ans. Et les dessins qu'ils faisaient, et ceux qui regardaient pas les écrans, ils avaient des bonhommes à peu près normaux, et les autres, ils avaient des bonhommes démembrés et tout. Ça faisait super peur, parce que ben, on voit qu'en fait, il y a un vrai impact sur les constructions neuronales, et moi, je suis pas du tout une experte en neurosciences, mais ça fait super peur. Même nous, est-ce qu'on contrôle vraiment ce truc-là? Quand on voit le temps qu'on peut passer sur notre portable, le nombre d'heures qu'on peut y passer par jour, ça fait peur. Enfin, ça a une vraie place dans nos vies, quoi. Voir la part de décision. Comment?
Moi, je suis à 5 heures aujourd'hui. J'ai regardé juste avant exprès et c'est assez terrifiant parce que je pense que j'ai bossé moins de temps dans ma journée où j'ai passé moins de temps à genre regarder les gens que sur mon portable et c'est assez terrifiant. Mais après, en termes de dérive, je vois pas comment on peut faire plus que ce qu'on est déjà en train de faire.
On peut toujours faire plus. L'humanité trouvera forcément un truc pour que ça tourne mal.
Ok, détruis ma vie.
Non mais même on l'a vu en répète, Quentin insistait pour qu'on... Non mais c'est vrai, Quentin insistait pour qu'on soit pas sur nos portables justement en répète, un peu paradoxalement. En vrai ça a vachement questionné, je sais pas pour toi Pauline, mais moi ça a un peu questionné mon rapport au portable cette pièce. Et il insistait pour qu'on ait pas nos portables pendant la répète, pendant 2 heures, juste passer un moment ensemble. Et c'était fou parce qu'à chaque fois que la répète était terminée, on reprenait tous notre portable, on pouvait pas s'en empêcher quoi. Et ouais, on a beaucoup fait de blagues.
Putain, ça fait 2 heures que j'ai pas mon téléphone, mais qu'est-ce que j'ai loupé? Est-ce qu'il y a un truc? Alors que, factuellement, avant, typiquement nos grands-parents, mais ils s'en foutaient. Genre, il y avait un problème, on les appelait. Nous, c'est pareil. Enfin, s'il y a un problème, on va finir par le savoir. Mais c'est juste ce truc de. Putain, est-ce que machin, il a fait ça et tout? Alors que, en vrai, on s'en fout quoi.
Et paradoxalement, on a peur de s'appeler quoi, c'est quand même fou.
Oui, et paradoxalement, on a de plus en plus peur d'appeler des gens au téléphone, alors que ça sert à ça de base, et on s'en rend compte dans notre quotidien, et c'est terrifiant, quoi.
Et donc, t'es curieuse de savoir quand même ce qui se passe dans la vie des autres. Parce que tu disais que t'étais pas curieuse, mais du coup, au final, c'est quand même super intéressant de se dire « Ah, quelle heure il est ? Ah, j'ai reçu ta notification. Ah oui, non, c'est en fait, la notification elle est pas intéressante. » Etc, ça, etc, ça, etc. Ça. Le fait de... Enfin, le temps de cerveau... Pardon, je t'ai niqué ta journée. Mais le fait de... Enfin, le temps de cerveau disponible, c'est comme ça qu'on dit. Enfin, le je sais plus comment on dit ça, mais le temps d'attention à porter à ça pour rien. C'est assez impressionnant.
C'est l'envie de voir sans que l'autre voit qu'on voit. C'est toujours ce truc-là un peu vicieux quand on regarde les stories. Non, mais c'est vrai. Quand on regarde les stories, c'est tout le temps un peu comme ça. Parce qu'au final, est-ce qu'on aurait envie délibérément de dire « je veux regarder dans ton portable » On le dit pas, mais on a quand même un peu envie de voir la vie des autres.
Mais du coup, ça questionne aussi, genre, par exemple, les stories, la personne qui met sa story, pourquoi est-ce qu'elle la met et qu'est-ce que c'est
ça?
Et qu'est-ce que ça lui apporte?
Et pourquoi elle met pas autre chose?
On est des merdes ambulantes. Théorie.
On parlait de l'omniprésence des téléphones et du besoin qu'on en a. Comment vous imagineriez la vie aujourd'hui si on n'avait pas de téléphone?
Plus sereine.
Plus simple.
Ouais.
Bien plus simple, je pense.
Moins pratique.
Peut-être aussi, ouais.
Oui, mais revenons au Nokia 3310, quoi.
Quentin, ça fait quoi, une semaine sans portable?
Eh ben, ça tombe bien, puisque j'ai testé pour vous. Et en fait, juste pour la petite histoire, j'ai cassé mon portable à 2 jours de la première représentation du festival, donc il y a 2 semaines maintenant. Et donc, ne serait-ce que pour contacter les comédiens, pour savoir ce qu'on doit ramener, etc., etc., c'est assez terrifiant et en même temps ça rend, je te rejoins là-dessus au niveau sérénité,
enfin sérénité,
enfin niveau, on s'en fout, on dit ce qu'on veut, enfin je sais pas, moi j'étais beaucoup plus serein, j'étais beaucoup plus à l'écoute, j'ai tendance à être beaucoup sur mon portable avec mes écouteurs, etc., surtout avec les écouteurs, et en fait écouter la, je sais pas, écouter le son de la rue, écouter je sais pas, les passants passer, ne serait-ce que parler avec des gens genre qui t'abordent ou des choses comme ça. Ouais, les gens abordent beaucoup dans la rue. Et bah, c'est très con, mais en fait, on est beaucoup plus, je sais pas, beaucoup plus ancré dans la réalité et beaucoup moins sur une réalité qui est pas celle dans laquelle on vit. Et pourtant, ça m'empêche pas de... Enfin, autant ça m'a beaucoup questionné, autant j'ai reçu un nouveau portable la semaine d'après. Day one, j'étais dessus et ça a pas changé. Donc... voilà, c'est oui, mais un certain temps.
Mais sauf que aussi maintenant, hôte des relations humaines, etc., nos téléphones, c'est devenu indispensable pour tellement de choses. Soit pour se repérer genre dans une ville que tu connais pas, Google Maps, pour chercher un truc, pour te réveiller le matin, t'en as besoin, pour écouter de la musique. En fait, c'est que maintenant, tu peux tellement faire de choses diverses et variées que tu peux même pas t'en passer, enfin même si tu voulais, mais franchement je sais pas comment t'as vécu une semaine sans téléphone. Enfin moi ça me serait impensable, parce que ça serait la notion, bah j'aurais pas de musique par exemple, alors qu'il y a d'autres manières de m'écouter, mais juste bah je pourrais pas, j'aurais pas de réveil le matin, enfin je fais tout avec.
C'est vite devenu indispensable, et en fait c'est ça qui nous dépasse un peu, c'est que c'est arrivé très très vite. Je sais pas comment c'était votre premier portable ou quoi, mais je sais que rien que mon grand frère, son premier portable c'était un portable à touche. C'était pas du tout le même rapport déjà.
C'était quand votre premier portable vous?
14 ans.
Fin de 3ème, donc c'est ça là. Mais avant j'avais une tablette, donc...
Oh, pff, ça compte pas. Et toi Johanna?
Moi aussi en 3ème, mais après je suis plus jeune que vous. Donc
ça va.
Toi, c'était quand ton premier portable?
Troisième aussi, je vous emmerde.
Justement, ça rejoint ma prochaine question. Est-ce que vous seriez capable de tester pour nous une semaine sans portable?
S'il y a un suite à gagner, oui.
Non.
Non, en vrai, je sais pas. Si je suis forcée de le faire, bah ouais, je le fais. Mais si on me dit, ok, telle semaine, t'auras pas de téléphone, je serai en mode, ah ouais, mais non, mais cette semaine-là, j'ai ça à gérer, j'ai ça. Et en fait, je repousserai juste tout le temps l'échéance. Et bon, ça serait tellement dur, mais ça doit être une très bonne expérience par contre.
Franchement, je serais chaud. J'ai déjà plus ou moins essayé il y a 2-3 ans. Et je serais chaud pour le refaire, mais faudrait... Bah, là tout de suite, si tu me dis tu sors, je te prends ton portable et je te le rends dans une semaine, je serais très embêtée parce que j'ai des tas de trucs à gérer avec. Mais si je peux me préparer un petit peu à la chose, prévenir les 2-3 personnes à qui je parle régulièrement qu'il faut m'appeler sur un fixe. J'ai pas de fixe.
Ouais, t'as pas de fixe encore.
J'ai pas de réveil, j'ai pas de fixe. Enfin bon, c'est compliqué, ouais. Faut s'organiser, c'est une logistique. Mais
faut acheter un réveil.
Ouais.
Non.
Ça c'est
en 2020. Merci beaucoup Quentin, Pauline et Elsa.
Merci à toi.
Merci. Merci.
C'était Les Trois Coups. Réécoutez l'émission sur radiocampusangers.com.
On se laisse en musique à bord du pédalo. Petite pause et on revient juste après sur le 103 FM. Là, on écoute Strata et leur morceau CD Sounds. Thank you. Strata City Sounds sur les ondes de Radio Campus Angers.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
18h25 sur les ondes du Centre FM, vous êtes toujours à bord du pédalo et il nous reste pile poil 5 minutes pour notre reportage Pensée Locale en partenariat avec la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Pour le reportage Pensée Locale du jour, direction Tréfieux à 50 km au nord de Nantes. Passionné par le végétal et le jardin, Thomas Bernardi s'intéresse à notre rapport au jardin, donc à l'accès à une alimentation saine et locale et aux problématiques énergétique. Il a créé la ferme Les Landes Vivantes à Tréfieux sur laquelle il produit du thé mais aussi des petits fruits, des myrtilles, des groseilles, des cassis. Les Landes Vivantes sont également une ferme pédagogique dans laquelle Thomas Bernardi accueille le public pour des ateliers et des visites chaque mercredi jusqu'en octobre à prix libre. Cécile Roland de Sun Radio a profité de l'une de ses visites pour aller à sa rencontre.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Là, vous voyez, ça c'est une plantation d'octobre 2020. C'est des cultivars, donc ils sont à peu près tous les
Thomas Bernardi, je suis paysan sur la ferme Les Landes Vivantes à Tréfieux, en Loire-Atlantique. À temps plein sur la ferme depuis 2019.
Les Landes Vivantes, c'est des théiers et pas que.
Il y a 5000 théiers sur la ferme, de différentes variétés. Également des fruits, des myrtilles, des framboises, des cassis, des groseilles. Et puis, c'est une ferme pédagogique, donc qui est ouverte au public, dans le cadre de visites, dans le cadre d'ateliers, peut-être aussi d'événements bientôt. Parce que justement, le cœur du projet, c'est d'ouvrir les portes de la ferme, de donner envie aussi aux gens de s'intéresser à ce que c'est ce métier. Et puis, de donner envie aux gens de mettre les mains dans la terre, de renouer avec ça. Dans la mesure du possible. Donc voilà, ça s'explique la diversité de la ferme. Et puis le thé, c'est quand même un pari un petit peu fou, donc difficile pour moi quand je me suis lancé de tout mettre dans le même panier. Les fruits, ça reste quand même une culture plus classique. C'est pour diversifier. Puis les petits fruits, c'était quand même aussi la volonté de faire des fruits déshydratés pour proposer des confiseries entre guillemets qui soient agréables et en même temps bonnes pour la santé, quoi.
Il y en a 200 en bas, puis là je vais replanter après tout ça.
Pourquoi le thé en fait ? Gros buveur de thé, d'où ça vient ?
Pas gros buveur de thé à la base. Plutôt m'interroger sur qu'est-ce qu'on pourrait produire ici, qui a un impact direct sur notre consommation énergétique par exemple, et qui pourrait éventuellement être localisé ici, quoi. Donc j'ai un peu réfléchi à différentes choses. Et puis à l'époque, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là, en 2017, j'ai rien trouvé, très peu sur le sujet. Il y avait, et il y a toujours, Denis Mazerolle et sa compagne Waisé, basée à Languidic dans le Morbihan, qui avaient déjà expérimenté sur le sujet, qui se sont lancés. D'autres personnes aussi, mais qui étaient moins dans la communication. Donc j'étais un petit peu un peu perdu dans ce sujet-là, mais j'avais envie, je me suis dit que c'était intéressant, et puis j'ai vite découvert que le théier, c'est un camélia, et le camélia, eh bien, c'est un peu la fleur emblématique, la plante emblématique de Nantes. La plante a été acclimatée à Nantes il y a 200 ans, donc je me suis dit, le camélia se plaît dans le coin, donc son cousin, le camélia de Chine, avec lequel on fait le thé, se plaira sûrement en Bretagne. Il y avait cette volonté de faire un thé local, qu'on puisse aussi avoir une ferme ouverte, c'est de venir voir les théiers dont on peut boire le thé. Et aussi de proposer du thé avec une grande fraîcheur, parce que le thé vert, on le sait peut-être pas, mais un thé vert, c'est un thé qui se consomme assez rapidement. C'est un thé primeur, quoi. Moi, je me concentre sur ce qu'on appelle le thé noir en France, mais c'est pareil, on a des parfums qui sont présents. Voilà, proposer un thé qui a été fait la semaine passée à quelqu'un, c'est plutôt chouette. Et on est évidemment sur un impact énergétique moindre, mais il faut quand même considérer que le thé, c'est une tradition multiséculaire. Donc il faut rester humble sur la qualité de ce qu'on produit et le savoir-faire qu'on peut avoir ici.
Depuis 2019, temps plein sur la ferme. Aujourd'hui, est-ce que tu en vis ?
Non, clairement non. J'en vis pas. Il y a eu des déboires notamment parce que quand j'ai démarré, il n'y avait absolument aucune documentation sur le thé en France. Au début, on veut planter du thé, mais on ne sait même pas où trouver des plantes théiers. Donc voilà. J'ai perdu 1000 théiers la première année. Et puis sur les fruitiers, cette année ça a été, mais les deux années précédentes, on a eu des gelées tardives qui m'ont grillé quasiment toutes les fleurs de fruits. Et puis, il ne faut pas oublier que ce sont des arbustes, donc ça met tout le temps du temps à la mise en production. Donc non, j'en vis pas aujourd'hui. Ceci dit, pour les personnes qui veulent se lancer dans le métier agriculteur, paysan ou dans le thé, j'encourage un maximum de gens à le faire parce que c'est nécessaire qu'il y ait des petites fermes. Et puis c'est un travail pleinement épanouissant, même si c'est dur. C'est surtout dur de s'installer, mais on peut se faire aider. Il faut se lancer. Et puis moi je suis prêt à aider à ma hauteur sur des conseils ou quoi, ou pour l'installation aussi, ça c'est un truc auquel je tiens.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Un reportage Sun de Cécile Roland.
Et le pédalo termine sa traversée ce soir sur les ondes de Radio Campus Angers. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve dès demain à bord du pédalo. D'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.